Je pense que ce n'était pas une guerre humanitaire pour deux raisons. La première, c'est que on voulait de toute façon mettre à genoux la Yougoslavie, qui avait une économie beaucoup trop collective et un cours économique qui prétendait résister au FMI et aux multinationales et à la globalisation et tout ça. Et deuxièmement, je pense qu'il y a quand même du pétrole, mais un peu plus loin. Si on regarde une carte géographique, les Balkans et particulièrement le Kosovo et la Macédoine, qui sont le carrefour de toutes les routes importantes dans les Balkans, sont l'accès stratégique vers la route du pétrole, où il y a des réserves non seulement au Moyen-Orient, mais aussi, on en parle beaucoup trop peu, dans le Caucase, la mer Caspienne, plus loin encore le Kazakhstan, non seulement du pétrole, mais aussi du gaz, qui va prendre un rôle économique absolument prépondérant. Et ce que j'ai montré dans mes livres, c'est que justement, toute la stratégie des grandes puissances est basée sur le fait que les multinationales américaines et d'autres, mais particulièrement les américaines, veulent prendre le contrôle de ce pétrole, de ce gaz, et ce qui est très important, de la route qui permet d'acheminer ce pétrole et ce gaz vers l'Europe. Si on regarde une carte, on voit qu'il y a des guerres partout où il y a une route vers le pétrole. Premièrement en Tchétchénie, où il y a un pipeline russe qui amène ce pétrole depuis la Caspienne, Bakou, jusque la mer du Nord. Deuxièmement en Géorgie, Nagorno-Karabakh, pardon, là aussi des incidents à répétition. Et la troisième route possible, ça serait, c'est un projet celui-là, c'est un projet américain, beaucoup plus cher, qui passerait par le Kurdistan, troisième guerre, et les multinationales américaines poussent ce projet-là parce qu'évidemment, il leur permettrait de s'appuyer sur les démocrates bien connus que sont les généraux turcs et leur permettrait de mettre complètement hors jeu la Russie dans cette région. Et si on prolonge un peu plus la carte vers l'ouest pour arriver vers l'Europe, on voit qu'il y a un projet, en fait, il y a deux routes qui s'affrontent. D'une part, la route la plus normale serait par la Roumanie, Constanța, et puis par la Yougoslavie, Belgrade, et de là le Danube, qui est un fleuve très long, très navigable, et c'est une voie d'avenir pour acheminer tout ça vers le Rhin, le Main. Et donc ça veut dire qu'on peut amener le pétrole, le gaz et les produits des industries que l'Europe veut délocaliser. On peut amener ça à bon marché vers Hambourg, vers Rotterdam. Donc c'est une voie que tout le monde veut absolument contrôler. Et ce qui est frappant, c'est que les Américains, eux, ont un autre projet parce qu'il y a un aspect de rivalité, pardon, avec l'Allemagne qui est très très important. Il y a un projet depuis 1994 au moins, avec des capitaux américains, qui est un pipeline qui s'appelle, je pense, le Trans-Balkan Pipeline Project, qui passerait par la Bulgarie, donc pas la voie que je viens de dire, mais plus au sud, la Bulgarie, et puis la Macédoine, juste en dessous du Kosovo, et l'Albanie. Je pense donc qu'en fait, on se bat pour contrôler l'accès de ces routes stratégiques du siècle qui commence.
Oui, toutes ces routes dont vous parlez, ce ne sont pas des vues de l'esprit que vous tracez sur des cartes, ce sont des projets tout à fait concrets. On a vu d'ailleurs aussi que dans la presse, disons, confidentielle, enfin, tous ces enjeux pétroliers stratégiques et toutes ces affaires de routes pétrolières sont totalement avoués et assumés, même par des militaires de l'OTAN.
Effectivement, il y a une grande différence entre la presse pour tout le monde, où on vous parle de guerre humanitaire ou alors de guerre incompréhensible, n'essayez pas de savoir, et la presse pour décideurs, le Financial Times, le Wall Street Journal, ou alors particulièrement les revues militaires, où ils sont très très francs, très brutaux, et où on dit qu'effectivement, c'est ça qu'il s'agit de contrôler. Il y a deux choses que je voudrais faire remarquer à propos de la Macédoine, c'est que en 1992, les Américains envoient des troupes dans les Balkans. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les envoyer là où il y a des problèmes et des combats, donc en Slovénie ou en Croatie ou en Bosnie? Absolument pas. Ils les envoient en Macédoine où il ne se passe rien. Donc ça, c'est déjà une indication très importante. Et la deuxième, c'est celle du général Jackson qui commandait la KFOR en Macédoine et puis au Kosovo, avant et pendant la guerre. Il a dit, nous resterons certainement ici longtemps afin de garantir la sécurité des corridors énergétiques qui traversent la Macédoine. Vous voyez, on ne parle pas de droits de l'homme, de protection des minorités, garantir les corridors énergétiques. Je pense que c'est ça qui est absolument décisif pour eux.
Par rapport à tous ces enjeux stratégiques pétroliers, quel est le but concret des États-Unis dans la région? C'est de s'y installer pour contrôler les routes, c'est de déstabiliser la région pour pouvoir mieux la contrôler. C'est à long terme, c'est quoi?
Il y a tout ça. Il y a la route du pétrole que je viens de dire, il y a le fait de prendre pied en Europe même. Si vous lisez les textes des grands stratèges américains comme Brzezinski, par exemple, dans ce livre Le Grand Échiquier, qui dit les États-Unis doivent tout faire pour demeurer la seule superpuissance au monde et ils doivent décourager l'Europe et le Japon aussi d'avoir leur propre armée, leur propre système de défense militaire. Donc, ils doivent installer l'OTAN comme gendarme de la région pour leur permettre de contrôler. Je pense que ça, c'est assez fondamental pour eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent être dans la région, absolument. Et que donc, ils ont provoqué ou excité des conflits pour justifier justement cette présence. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Je suis allé en décembre au Kosovo pour tourner un film sur la situation qui est absolument catastrophique, aussi bien pour les Serbes qui vivent, soit ils ont été chassés, la purification ethnique, soit ils vivent dans des ghettos sous la terreur. Pas seulement eux, aussi toutes les autres minorités nationales du Kosovo, les Bratmans, les Turcs, les Égyptiens, parce qu'il y avait beaucoup de minorités nationales là-bas. Et donc c'est vraiment terreur, un système de mafia que l'UCK a installé avec la protection des États-Unis et de l'OTAN. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très frappant actuellement dans la région.
Mais on parle de présence à long terme des États-Unis. Il me semble pourtant que le candidat Bush, qui effectivement apparemment ne tient pas toutes ses promesses, mais il avait tout de même parlé d'un plus grand isolationnisme, d'un interventionnisme moins poussé, qui est de toute façon un credo des républicains américains. Est-ce qu'il va briser cette promesse électorale là aussi?
C'est vrai que Bush, il a un problème, c'est que il se retrouve face à plusieurs foyers de résistance et de problèmes. L'Irak tient toujours. En Palestine, l'intifada se développe nouveau. Le plan Colombia, entre aussi pour contrôler des ressources pétrolières, va rencontrer beaucoup de résistance, risque d'amener pardon, les Américains dans un nouveau Vietnam. Donc, c'est pas encore clair si il voulait vraiment se désengager ou si c'était seulement un effet d'annonce électorale. Moi, je voudrais dire que vers la fin 95, Bill Clinton, qui était aussi candidat électoral, candidat présidentiel à ce moment-là, avait dit les boys, les GIs seront rapatriés aux États-Unis avant la Noël 95. Donc, vous pouvez voir où on en est. Je pense que c'est pas clair. En fait, les États-Unis, vous savez, ils ont toujours comme ça une tactique, une méthode de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, qui fait que en fait, ils peuvent s'adapter à plusieurs situations. Ils ont un but stratégique qui est bien clair, s'installer dans les Balkans, ce que je viens de dire par rapport à l'Europe, devenir vraiment l'arbitre de la région. Mais la tactique politique, ça peut varier. S'ils pensent que soutenir Kostunica, c'est la meilleure carte et que ce gouvernement a une chance de durer, ce qui n'est pas évident parce qu'il y en a déjà de plus en plus de grèves et de mécontentements là-bas. Mais s'ils pensent que ce gouvernement est le meilleur atout, alors ils ne vont pas hésiter à se retourner contre les Albanais de l'UCK. Mais pour l'instant, je suis sceptique par rapport à ça. Je sais bien que maintenant, il y a évidemment des déclarations, que l'UCK, ce sont des extrémistes. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est qu'au début 98, M. Robert Gelbart, qui était l'envoyé spécial des États-Unis dans les Balkans, avait dit, il avait dit ça dans toute la presse internationale, l'UCK, ce sont des terroristes. Et effectivement, il y avait des rapports déjà à ce moment-là, des rapports parlementaires américains et autres, qui disaient, l'UCK assassine des policiers serbes pour provoquer des réactions, des représailles, aussi des civils serbes, aussi des civils albanais qui avaient le tort d'être, par exemple, mariés à un serbe ou d'avoir un petit job dans l'administration en place. Donc effectivement, ils avaient tous les éléments pour dire que l'UCK était des terroristes. Mais 3 mois après cette fameuse déclaration de M. Robert Gelbart, tout d'un coup, on découvre que non, non, pas du tout. L'UCK, ce sont des combattants de la liberté et l'OTAN va devenir leur force aérienne pratiquement. Et donc, on va commettre une guerre épouvantable, pas du tout propre, avec des milliers de victimes civiles en Yougoslavie avec la destruction de toute une économie, avec comme conséquence l'exacerbation de la haine entre Serbes et Albanais, rendant le problème beaucoup plus difficile, mais ça c'est justement ce que les États-Unis veulent, c'est la traditionnelle politique de diviser pour régner.
Oui, donc on voit effectivement qu'on peut faire des revirements constants selon les besoins. D'un autre côté, tout ça paraît tellement téléguidé par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait des mouvements autonomes des peuples et de leur frustration qui les mènent tout de même à faire des choses qui ne sont pas téléguidées de loin? Ça joue un rôle aussi, non?
Absolument. Il y a évidemment des problèmes là sur place, il ne s'agit pas de les nier. Moi, je pense que les grandes puissances par rapport à ces problèmes ne cherchent pas du tout à apporter des solutions, mais seulement à les utiliser au sens de leur avantage. Je rappelle que les services allemands ont fourni des armes d'abord à Franjo Tuđman, le Vlaamsbloc de la Croatie, à partir des années 80, donc bien avant la guerre, que la guerre éclate, parce que leur but était de faire éclater la Yougoslavie. Les mêmes Allemands ont fourni des armes à l'UCK et ça a provoqué l'escalade du conflit en 98. Donc je crois que les grandes puissances ne sont par rapport à ça absolument pas la solution. Elles sont le problème en fait. Et ce qu'il faudrait, c'est rétablir absolument, je crois qu'on doit tout faire, les progressistes doivent tout faire pour rétablir le dialogue entre les peuples, entre les nationalités, y compris entre les Serbes et les Albanais. C'est la seule solution, parce que vous savez, les Albanais sont aussi victimes de cette situation. Regardez en Albanie, on a installé un régime pro-occidental, le favori des Américains à l'époque, Berisha, a protégé un système d'escroquerie qui s'appelait la pyramide, et tous les Albanais, les simples gens, ont carrément eu leurs économies volées par ce système-là. Il y en a énormément qui doivent émigrer à l'étranger pour chercher du boulot. Au Kosovo même, la situation de beaucoup d'Albanais n'est absolument pas rose. La mafia liée à l'UCK assassine aussi des Albanais, on ne le dit pas, mais c'est très très important. On les assassine pour leur prendre leur maison, leur commerce ou les femmes, tout simplement. Donc la criminalisation de cette société fait que beaucoup d'Albanais en sont victimes aussi. Donc moi, je trouve qu'on doit tout faire pour justement appeler à ce dialogue, que les nationalités se parlent à nouveau, essayer de trouver des solutions qui garantissent les droits des uns et des autres, et qui garantissent, parce que ça c'est la condition de tout, une résistance commune face aux ingérences des grandes puissances.
Vous avez parlé du rôle de l'Allemagne, ce qui nous amène à l'Union européenne. D'une part, les États-Unis et l'Union européenne sont alliés au sein de l'OTAN, mais d'autre part, on se rend tout de même compte qu'il y a des intérêts économiques relativement opposés. Il y a d'ailleurs plusieurs routes de pétrole qui sont rivales, d'une part des projets américains, d'autre part des projets européens qui sont antagonistes. Quelle lecture est-ce qu'il faut avoir de cette rivalité d'une part et de cette alliance de l'autre? Quels sont les enjeux cachés là-dedans?
Je pense que vous le dites bien, je pense qu'il y a effectivement alliance et rivalité. L'alliance, c'est que, ensemble, ces politiques qui sont dictées en fait par les multinationales, parce que les politiques comme ça ne se décident pas au niveau du Parlement, ni même du gouvernement, ce sont les multinationales qui décident ce qu'il faut faire dans telle ou telle région, en fonction de leurs projets. Et je pense que là, d'une part, ils sont tous d'accord que le gâteau doit leur revenir à eux, aux multinationales, et pas aux peuples de la région, qui n'ont rien à décider, qui ne peuvent recevoir que les miettes. Mais en même temps, entre particulièrement les États-Unis et l'Union européenne, il y a une bataille pour savoir qui va prendre la grande part du gâteau. Et là, je ne suis pas du tout pour qu'on se fasse des illusions sur le fait que nos multinationales européennes à nous seraient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus morales, beaucoup plus chic, beaucoup plus civilisées que les autres. Regardez dans l'actualité ce qu'on apprend sur Elf et leur soutien aux pires saloperies contre le pétrole en Afrique, leur coup d'État, leur contre-coup d'État, leur utilisation de barbouzes. Et ça, on en apprend un ou deux cas, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Et je pense qu'il n'y a aucune moralité en plus du côté des multinationales européennes. Il faut passer à des... Voilà.
Par rapport à tous ces enjeux pétroliers, quelle peut être la suite des événements aujourd'hui concrètement en Macédoine? On voit que la guerre civile risque d'éclater complètement. On voit qu'un jour l'OTAN dit qu'il risque d'y avoir intervention, l'autre jour c'est exclu, etc. Sachant tout ce qu'on sait comme ça, quel peut être concrètement, quels peuvent être les scénarios pour la suite des événements?
Je crois qu'il y en a plusieurs. C'est clair que les États-Unis ont plusieurs possibilités, comme je l'ai dit, pardon, et ils ont le choix entre soit renverser leurs alliances, comme ils ont déjà fait, par exemple, entre Iran, Irak, Syrie, et se dire OK, on va soutenir à fond Kostunica et Djindjic. Soit ils peuvent, comme ils le font maintenant, je pense, soutenir en sous-main l'UCK. Officiellement, ils la condamnent, mais en sous-main, ils la soutiennent. Vous savez, il faut bien regarder la carte aussi. À partir d'où l'UCK a-t-elle mené son offensive? D'abord contre la vallée de Preševo en Serbie, et puis contre la Macédoine, à partir de la zone américaine. Tout ça se passe juste à côté des bases américaines. Alors on ne va pas me faire croire que des milliers de soldats américains ne sont pas capables d'arrêter ces événements-là. Donc là, je pense, moi, que l'option numéro un des États-Unis dans la région, ça reste de créer ce que j'appellerais un Israël albanais, c'est-à-dire un État quasiment fantoche, un État qui leur devrait absolument tout et qui serait en quelque sorte leur porte-avions dans la région. Mais ça peut se faire avec des va-et-vient, ça va certainement se faire avec discrétion et en se cachant, parce que les Européens ne sont pas tellement d'accord, ils ne voudraient en tout cas pas qu'on modifie les frontières, ils savent que ça provoquerait une internationalisation du conflit et que ça provoquerait, aurait beaucoup de chances de provoquer un embrasement. Les Européens, pour l'instant, n'en veulent pas. Donc, c'est pas évident de voir de quelle façon ça va évoluer. Je crois que, de toute façon, dans un premier temps, les Américains seront très contents de jouer la stratégie de la tension et de provoquer, de voir qu'il y a une petite escalade. Vous savez, quand vous avez une base militaire dans une région, vous ne pouvez pas la justifier s'il n'y a pas de problème dans la région. Donc vous avez besoin d'un problème. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi lorsque j'étais en décembre au Kosovo, c'est que les Américains ont construit là une base énorme qui s'appelle Camp Bondsteel. Elle est énorme avec des McDo, des saunas. Elle est tellement grande qu'elle est divisée en Uptown, Midtown et Downtown. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en décembre, j'ai filmé ça, ils étaient encore en train d'agrandir cette base, alors qu'un gouvernement démocratique, comme ils disent, avait été élu, qu'il leur est tout à fait favorable, et que donc il n'aurait pu y avoir de problème. Ils agrandissaient pourtant cette base. Donc, moi, je crois qu'ils sont là pour longtemps.
Pour terminer, en ce qui concerne la presse, qui est tout de même votre domaine de prédilection, on constate aujourd'hui que tous ces enjeux sous-jacents sont totalement absents de la presse et qu'il y a aussi une certaine amnésie par rapport au passé récent, notamment celui du Kosovo. Dans la presse, on lit finalement que des relations des faits sur le terrain et à la rigueur, on relève pour les plus téméraires quelques contradictions de l'OTAN. Je suppose que ce vide et ces absences ne vous étonnent pas?
Non, il y a effectivement quelque chose qui est choquant là maintenant, c'est qu'on nous dit que ceux qui étaient blancs hier sont noirs aujourd'hui et l'inverse. On ne nous donne aucune explication là-dessus. Et effectivement, on nous cache les enjeux. Maintenant, je pense qu'il faut être nuancé et je n'ai pas envie de dire la presse. Je pense qu'il y a différentes sortes de presse. Il y en a effectivement une presse perroquet qui répète ce que l'OTAN et les pouvoirs dominants nous disent, et puis il y a quand même certains journalistes qui essaient de faire leur métier et de comprendre. Je reviens des Pays-Bas où on a donné une grande conférence pour le lancement de l'édition néerlandaise de mon livre. J'ai été extrêmement étonné. Les grands médias, une série de grands médias de la presse écrite, de radio et de télévision, se sont précipités pour avoir des interviews, parler du bouquin et donner écho à ce que je viens de vous dire. Donc j'ai dit la même chose et ça passe. Il y a eu quelques cas de censure évidents, notamment quand un politicien gouvernemental a dit je ne vais pas discuter avec Colomb, donc on m'a retirés de l'affiche, mais la plupart des journalistes que j'ai rencontrés ont quand même essayé de faire leur travail et ils ont donné beaucoup d'écho à ça. Ça passe par exemple à la télévision, c'est passé hier soir à la télévision hollandaise. Moi, je voudrais dire que je voudrais lancer un appel en fait à tous les journalistes honnêtes aussi en Belgique pour qu'on relance le débat sur ces questions. Bon, oublions les noms d'oiseaux qu'on a pu se lancer dans tous les sens autour de ça. Et maintenant, faisons le point froidement, calmement. L'OTAN, c'est clair qu'ils nous ont raconté vraiment n'importe quoi. Ils nous ont non seulement raconté des histoires sur la guerre propre qu'ils n'étaient pas du tout, mais aussi, n'oublions pas l'affaire de l'uranium et de leurs armes pas du tout propres, mais aussi donc sur les motivations et sur les enjeux, les véritables objectifs de ces guerres, qui est la chose la plus importante. Là aussi, on nous raconte n'importe quoi avec tous ces revirements d'alliance maintenant. Il serait donc en même temps qu'on fasse un peu le bilan de tout ça, qu'on tire les leçons et qu'on prenne des mesures pour éviter qu'à la prochaine fois, on ait de nouveau une info tellement militarisée, tellement le doigt sur la couture du pantalon, parce qu'une mauvaise info, ça a des conséquences. C'est pas simplement ah, on s'est trompé, on rectifiera. Une mauvaise info, ça permet aux généraux, à l'industrie, pardon, des armements et aux multinationales de recommencer des guerres pour le pétrole et pour toutes les richesses naturelles et les marchés qu'ils veulent contrôler. Et ces guerres, elles font des victimes. Donc, en tant que journalistes, nous avons tous une responsabilité par rapport à ça. Est-ce que nous laissons passer la mauvaise info ou est-ce que nous la mettons en doute et est-ce que nous lançons le débat? Donc, c'est un appel que je voudrais lancer en espérant qu'il sera entendu.
En ce qui concerne la Belgique spécifiquement, vous avez bon espoir de voir cet appel suivi et de voir apparaître le débat dans les colonnes, pour ne citer que cela, du Soir et de la Libre Belgique?
Eh bien, écoutez, je voudrais faire une proposer un appel public là. Je pense que ce serait le moment d'organiser un débat sur tout ça. Il y a à l'Université libre à Bruxelles et un peu ailleurs dans le pays, il existe des facultés de journalisme, des communications, des gens qui suivent les médias. Pourquoi ne pas organiser un jour un débat public ou un séminaire sur ces questions et faire un peu tous le point, que chacun s'explique, essayer de voir comment on peut améliorer l'info sur la guerre pour éviter tous ces dégâts.
Fallait une réponse bien diplomatique. Merci beaucoup.